C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, cinéaste, romancier, dramaturge, chanteur. Œuvres nombreuses, principalement dans le roman. Personnage ou stéréotype, la jeune fille, 1830-1970. Dans ce diptyque des stéréotypes féminins, celui de la garce dont je parlais la semaine dernière est toujours vivace. Il le reste sans doute parce qu'il peut passer pour flatteur. Celui dont je vais parler cette semaine, en revanche, a complètement disparu. Une chose m'a beaucoup frappé lorsque je parlais du sujet de cette émission, c'est que la plupart des gens ne comprenaient pas. La jeune fille, eh bien quoi, une fille ? Non, la jeune fille. On ne sait pratiquement plus, sauf sans doute dans quelques familles de la bourgeoisie conservatrice, ce que veut dire l'expression « jeune fille ». Et si on l'ignore, cela vient de ce que l'idéal qui a présidé à sa création n'existe plus. Une jeune fille, si je devais tenter de la définir tant soit peu, était un être de sexe féminin, entre la post-adolescence et la toute première jeunesse, entre 16 et 20 ans disons, qui était réservée, discrète, bien élevée, obéissante, de préférence pieuse et surtout vierge. Cela peut nous faire sourire, mais nos ancêtres n'étaient pas plus bêtes que nous, ils avaient simplement des préjugés différents. Nos fantômes seront bien surpris quand, nous si sûrs de notre supériorité morale, serons jugés pour un comportement odieux dont nous n'avons pas conscience. Nos ancêtres ont vécu pendant un siècle et demi sur cette conception de ce qu'une femme de cet âge-là devait être, conception qu'on a mise en pratique. Dans la bourgeoisie avant tout, mais comme elle avait le pouvoir, par imprégnation plus ou moins grande, dans les autres classes sociales aussi. Je dirais que le stéréotype de la jeune fille a duré, disons, de 1830 à 1870, et il y a eu bien des personnages de fiction pour l'illustrer. Quand j'ai cherché quel auteur pouvait être à son origine, je me suis dit « Musset ». C'est bien son genre d'idéaliser une jeune femme en lui prêtant des vertus spécifiques, en faisant un objet précieux et pudique, fragile et adorable. Et en effet, la première occurrence où j'ai trouvé un personnage de jeune fille, dans ce sens de personne pure, presque abstraite de toute matérialité, est dans un poème dramatique de Musset, « La coupe et les lèvres » en 1831. À l'acte 1, Franck rencontre un personnage qui n'a pas de nom et est précisément désigné « la jeune fille ». Prudente jeune fille, où t'en vas-tu si tard? Et voilà, jeune fille et prudente. Elle apparaît et sera bientôt suivie de quantité de personnages semblables tout au long du 19e siècle et pendant les deux tiers du 20e, jusqu'à leur acte de décès, dressé par François Mauriac peu de temps avant sa mort dans un entretien avec Madeleine Chapsal. Vous ne savez pas ce qu'était une jeune fille. C'était un être, une créature, il faut bien le dire, tout à fait artificielle, très préservée, très surveillée, qui ne lisait pas, ne voyait pas certaines choses, ne sortait jamais seule. Mais enfin moi, continue Mauriac, j'ai encore connu cette jeune fille-là et j'ai subi son charme. Qui est la jeune fille? Pour en parler, je reçois Denis Pernaud, professeur de littérature à l'université de Sorbonne Paris Nord, qui a récemment publié Henri Barbus, Les discours du feu aux éditions universitaires de Dijon. Denis Pernaud, j'ai parlé de la jeune fille de Musset, la jeune fille romantique, donc. Il faut dire que la plupart des romantiques étaient de droite et presque réactionnaires. Après les fracas de la Révolution et de l'Empire, il y avait un retour à la discrétion et au chuchotement?
Oui, un retour à la discrétion et au chuchotement, et de fait, la jeune fille est souvent un personnage assez secondaire. C'est un personnage qui va être souvent un personnage de roman, beaucoup plus que de théâtre, et c'est là sans doute qu'il y a une exception Musset, avec On ne badine pas avec l'amour, avec À quoi rêvent les jeunes filles, mais dans le seul roman de Musset, La confession d'un enfant du siècle, Brigitte n'est pas à proprement parler une jeune fille. Alors, c'est un personnage de roman, et c'est probablement justement un personnage de roman paradoxal, puisque la jeune fille, telle que vous venez de la décrire, précisément n'a pas ce qu'il faut pour être un personnage romanesque.
Quelques années après Musset, en 1841, Balzac, qui n'était jamais en peine, comme nous savons, de répandre les idées conservatrices, décrit une jeune fille dans Ursule Mirouet.
Alors en effet,
entre autres,
il y a tout un panorama de jeunes filles, en effet, chez Balzac. qui sont des jeunes filles un peu étranges chez Balzac, parce que précisément elles peinent à véritablement entrer dans une intrigue. Elles sont plutôt, et c'est le cas d'Ursule Mirouet, des personnages autour desquels tournent un certain nombre d'hommes. Et en réalité, Ursule Mirouet, elle est le jouet de son précepteur, de son éducateur, pour commencer.
C'est une orpheline.
Voilà, c'est une orpheline qui est recueillie par un homme mûr qui va l'éduquer dans des principes relativement libéraux. Et il va y avoir, au décès de cet homme, il va y avoir une affaire d'héritage. Et elle va, en réalité, ce qui fait la valeur d'Ursule Mirouet, en réalité, ça n'est pas elle en tant que personne, en tant que jeune fille, c'est la valeur capitale de l'héritage de son tuteur. Elle donc est toute aux prises avec des hommes de loi, etc., etc. Et chez Balzac, la jeune fille ne devient personnage qu'à partir du moment où elle va ne plus tout à fait être jeune fille, c'est-à-dire à partir du moment où elle va trouver l'amour.
Pour rester dans cette période du romantisme et du post-romantisme, je voudrais qu'on parle d'une nouvelle qui, à mon avis, est assez caractéristique de l'idéologie, si on peut employer ce mot autour de la jeune fille. C'est une nouvelle charmante de Théophile Gautier qui date de 1845 et qui s'appelle « L'oreiller d'une jeune fille ».
Donc c'est une dame qui offre un oreiller à une petite fille et cet oreiller est pensé, conçu par la petite fille comme un oreiller magique avec lequel elle est invitée à discuter. Et en vérité, elle va discuter avec cet oreiller comme une jeune fille va pouvoir discuter avec son directeur de conscience. Et c'est en fait ce que révèle la fin de la nouvelle. L'oreiller n'avait rien de magique, c'était l'enfant qui ensuite devient jeune fille et qui grandit, qui discutait avec elle-même en se posant un certain nombre de cas de conscience. Et c'est évidemment l'idée aussi que cette jeune fille, souvent, elle vient de sortir du couvent, elle est en attente de mariage, et c'est ce qui caractérise la jeune fille, c'est cette période d'une durée relativement indéterminée, qui varie un petit peu dans le siècle, de 5 à 10 ans. Or, elle est une espèce de puissance à contrôler, la jeune fille. Et derrière elle se construisent toutes sortes de discours qui sont des discours de contrôle, un discours éducatif souvent porté par les religieux, un discours médical, parce qu'elle va être sujette à la maladie, etc., qui va être porté par les hygiénistes, par les médecins, et il y a aussi tout un contrôle de la lecture qui est là. La jeune fille, à la fois, elle est très très inexistante en tant que personnage, mais ressentie comme un être qu'il faut placer sous contrôle, comme une menace potentielle pour le bon ordre de la société bourgeoise.
Quelqu'un qui a fortement contribué, Denis Pernaud, à cette idée que la jeune fille est une sauvageonne à domestiquer, c'est la comtesse de Ségur.
Alors, il y a la comtesse de Ségur, bien évidemment, avec les malheurs de Sophie, les vacances de Sophie, qui font partie de... Alors que les lectures des jeunes filles sont très surveillées, ces lectures font... Enfin, la comtesse de Ségur fait évidemment partie de ces lectures qui sont lues par les jeunes filles. On le retrouve d'ailleurs dans une scène assez étonnante dans les jeunes filles de Monterland, où le romancier Costal est isolé dans la cuisine de l'appartement de la famille de la jeune fille qu'il aime, Solange Nandillot, et ils lisent ensemble les vacances de Sophie de la comtesse de Ségur.
Alors, est-ce que pour être juste, nous sommes en train de dire que tout ça était aussi un véhicule pour encager les jeunes filles, mais les hommes étaient aussi d'une certaine façon en cage. C'était une société très rigoriste, pas du tout de la même façon et de manière sûrement plus confortable, mais ils étaient en cage aussi avec la hiérarchie, le service militaire, une obéissance aussi.
Tout à fait, c'est un univers de convenance réciproque, mais on attend peut-être un comportement beaucoup plus strict de la part des jeunes filles que de la part des hommes, en particulier dans tous les lieux où on va rencontrer la jeune fille, c'est-à-dire dans le lieu par excellence. Alors la chambre, elle y est seule, sinon elle n'est plus jeune fille, mais c'est le salon mondain, bien évidemment, qui est le lieu écrin de ce personnage de la jeune fille.
L'an dernier, Denis Pernaud, vous avez parlé avec moi dans Personnage en personne du personnage du Grand Môle. Et dans le roman de la Fournier, il y a un personnage qui, là aussi, un peu moins qu'un personnage, mais qui est une quintessence de jeune fille, je crois, c'est Yvonne de Galet.
Alors, bien sûr, il y a Yvonne de Galet, qui effectivement est peut-être une quintessence de jeune fille, dans la mesure où elle est une espèce d'éternelle jeune fille. Elle est éternelle jeune fille peut-être parce que elle est, lorsqu'elle est portraiturée, tout à fait cliché, le cheveu abondant, blonde, etc. Le corps
très
éthéré,
vaporeuse, oui.
Très vaporeuse. Et puis elle va rester jeune fille. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'après qu'elle est mariée et même une fois qu'elle a enfanté, elle n'est jamais appelée Madame Maulne, Madame Augustin Maulne. Elle reste toujours, et le narrateur y insiste beaucoup, elle reste toujours Mademoiselle Yvonne de Galet. Et elle est aussi jeune fille. Alors de ce point de vue, elle est rapprochée d'ailleurs de Valentine. Il y a la même expression qui est intéressante, qui caractérise les deux personnages. Elle est femme et jeune fille. Et dans les deux cas, on retrouve la même expression pour caractériser les deux personnages.
Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur un écrivain qui était très influent et qui est Francis Jammes et qui a écrit en 1899 un roman longtemps fameux que j'ai pour moi-même lu dans la bibliothèque de ma grand-mère et ça restait très longtemps dans les familles bourgeoises. C'était Clara Delébeuze. Clara Delébeuze, c'est une jeune fille.
Alors Clara Delébeuze, c'est une jeune fille qui veut rester pure. Hein. C'est dit dès le début. Comme toute jeune fille, elle est parfaitement ignorante des choses de l'amour et tout particulièrement de la sexualité. Et elle va se trouver à un moment à embrasser un jeune homme. Embrasser, il y a tout un jeu dans le texte. Il s'agit tout simplement du sens premier de embrasser. Elle le prend dans ses bras. Mais elle a lu dans une lettre...
D'une histoire familiale,
que la maîtresse, finalement, d'un de ses oncles était tombée enceinte à la suite d'embrassement. Alors, en fait, sa naïveté fait qu'elle ne comprend pas...
La métaphore.
La métaphore ou le glissement du verbe embrasser. Et il va se passer cette chose qui peut faire sourire, mais Jammes ne fait pas sourire avec elle. Suite à cette embrassade prise entre ses bras, elle se persuade qu'elle est enceinte et elle va en mourir.
Elle va même se suicider.
Elle va en mourir et se suicider.
Ça montre d'ailleurs l'état d'hystérie où peut arriver, où peut mener l'idée de pureté. Il y a un mot très très fréquent dans le Clara Delébeuze, c'est le mot pudeur. Et c'est assez frappant, c'est à la même époque que Rémy de Gourmont passait son temps à attaquer la pudeur parce qu'il voyait bien dans ses articles du Mercure de France, car il voyait bien que c'était une notion néfaste.
Voilà, et puis elle est aussi taraudée. Ça revient à plusieurs reprises. Elle est taraudée de scrupules. Et sa volonté d'être pure, etc., finit en maladie nerveuse. Et c'est un mot qui revient aussi à beaucoup de moments pour caractériser la jeune fille. C'est cette idée, évidemment, qu'elle est victime de ses nerfs.
En tout cas, ce qui est frappant, c'est que après un certain temps, il commence à y avoir une petite révolte dans la fiction française contre la jeune fille, me semble-t-il, et en particulier avec Marcel Proust et les jeunes filles en fleurs, car les jeunes filles en fleurs de Marcel Proust sont des perverses, des menteuses, des lesbiennes. Vous avez parlé de Monterland et de sa série des jeunes filles qui est, d'ailleurs, là je dois dire, d'une misogynie odieuse et c'est vraiment très très frappant. Vous pouvez peut-être dire un mot car c'est une série, ces quatre romans, ces jeunes filles qui ont très bien marché dans les années 30.
Oui, alors donc, et on pourrait rapprocher peut-être Proust et Monterland. La jeune fille, finalement, est un personnage qui est insaisissable pour le romancier. Dans la série de Monterland, le personnage principal, effectivement, odieusement misogyne, est précisément un romancier. Et précisément un romancier, et qui a cette phrase, c'est dans le dernier volume, Les Lépreuses, où il dit, finalement, les jeunes filles, les romanciers les ratent toujours. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que peut-être qu'une des manières de ne pas rater les jeunes filles, de ne pas rater la jeune fille, c'est de portraiturer des jeunes filles. Pour la saisir, il faut casser le stéréotype, le diviser, le démultiplier. Et c'est la fameuse scène de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, à Balbec, où, si ma mémoire est bonne, c'est 7 jeunes filles d'un coup qu'aperçoit le narrateur, d'ailleurs incapable de fixer son attention et son désir sur aucune d'entre elles. Et c'est parce qu'elles sont 7 que finalement chacune d'entre elles va rester toujours mystérieuse pour lui, y compris dans ce qui les éloigne le plus du stéréotype de la jeune fille, qui est du côté de l'homosexualité, du côté de mœurs tout à fait libres pour d'autres.
Elles sont 7 pour le narrateur, comme les 7 plaies d'Égypte, je crois. Nous allons maintenant entendre Adélaïde d'Arnold Turboust. C'est une chanson de 1986. Denis Pernaud, 10 ans avant Clara Delébeuze, le roman de Francis Jammes dont nous parlions dans la première partie de cette émission, en 1889, avait paru le célèbre manuel du savoir-vivre de la baronne Staff. Et il est très intéressant ce manuel qui était répandu dans toutes les familles parce que, me semble-t-il, il révèle qu'on savait que ce statut de la jeune fille entraînait le malheur. Voici ce qu'elle dit, la baronne Staff, dans la partie « La jeune femme comme elle devrait être ». Elle n'est peut-être pas entièrement heureuse, mais elle n'a pas cherché de consolation coupable. Elle accomplit son devoir simplement, elle sait que le bonheur complet n'existe pas et elle n'a pas fait de rêves impossibles, du moins, elle les a étouffés. Et voilà comment on coupe le coup à Madame Bovary.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'un manuel comme celui de la baronne Staff, qui d'ailleurs n'était pas baronne, fait partie de tout à fait de cette littérature de contrôle qui était extrêmement développée autour de la jeune fille. Toutes sortes de manuels de civilité, toutes sortes de manuels de piété, et souvent la jeune fille est d'ailleurs représentée en littérature avec un missel à la main, et lorsque l'on parle des littératures conventuelles, finalement, c'est bien ce qu'elles lisent dans les couvents. Et si je puis me permettre, il y a évidemment un chef-d'œuvre qui est le manuel de civilité à l'usage des petites filles de Pierre Louys, hein, qui est évidemment une parodie et une parodie absolue de toute cette littérature. C'est un livre qu'on ne met pas dans les mains des jeunes filles.
Mais c'est une parodie leste, comme on disait.
Pour le moins.
On risquait donc à cette époque-là, si on faisait les rêves impossibles que déconseille la baronne Staff, d'être, et il y a un autre mot qui a disparu avec celui, ou une autre locution qui a disparu avec celle de jeune fille, on risquait d'être une fille-mère.
Fille-mère, c'est évidemment le destin à éviter, qui correspond à une forme de déclassement social, de rejet, de désocialisation. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment les jeux d'adjectifs autour de jeune fille. Il y a évidemment jeune fille et vieille fille.
Vieille
c'est
fille.
Presque autant à éviter que fille-mère. Peut-être pas tout à fait autant.
Et alors, cette jeune fille, Denis Pernaud, c'est une création, nous en avons parlé depuis le début, d'auteurs masculins. Ce sont eux qui ont véhiculé cette idée de virginité rêveuse. Et tout cela, il faut le dire, avec la collaboration de bien des femmes adultes, de mères.
Tout à fait. Les romans édifiants qui étaient donnés à lire aux jeunes filles sont bien des romans dans lesquels la jeune fille est représentée sous ces traits-là. Alors pour la plupart d'entre eux, évidemment, nous les avons aujourd'hui oubliés, mais c'est bien cette littérature-là que lisaient les jeunes filles.
Alors, on a parlé des hommes, mais que des autres, des romanciers. Que faisaient les romancières? Que faisait Jane Austen, par exemple, pour sortir de la France?
Alors, c'est un cas évidemment un petit peu particulier parce que là, il y a une culture française de la jeune fille. C'est quand même, je crois, un personnage qui est un personnage français avec une situation qui est pas exactement la même dans la situation anglaise, ce qui fait d'ailleurs que le roman anglais est toujours un roman matrimonial, ce qui n'est pas toujours le cas, bien loin de là, en France, et que le roman anglais de la jeune fille, à commencer par les romans de Jane Austen, seront souvent des romans d'éducation qui vont conduire la jeune fille au mariage, ce qui n'est pas si souvent que cela le cas dans la littérature française, où la jeune fille, en tout cas, échappe dans une certaine mesure au processus d'éducation, sauf peut-être, me semble-t-il, dans certains romans de George Sand.
Alors justement, je voulais vous en parler, George Sand. Comment prend-elle, elle, dont on sait qu'elle était une humaniste et une combattante d'une certaine façon, qu'est-ce qu'elle fait de ce personnage de la jeune fille?
Alors j'aurais envie de dire deux choses qui sont peut-être deux choses un petit peu contradictoires. Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'elle va souvent donner, dans un certain nombre de ses romans, elle va donner une position qui est une position d'éducatrice, mais pas d'éducatrice maternelle à la jeune fille. La jeune fille va, en quelque sorte, pouvoir être en situation d'éduquer celui qu'elle va aimer. Et peut-être même, parfois, d'attendre qu'il soit bien élevé pour pouvoir l'épouser. Et on retrouve ça dans plusieurs romans de George Sand, dans Maupras ou dans Consuelo, par exemple. Ce qui est différent, me semble-t-il, chez George Sand, c'est que, dans le fond, elle ne donne pas si souvent la parole que cela à des jeunes filles. Je crois que dans toute son œuvre, je peux me tromper sur le décompte, les narrateurs, elle utilise des narrateurs, elle utilise très rarement des narratrices, en laissant de côté évidemment un certain nombre de romans épistolaires où la voix peut être féminine ou masculine, mais c'est souvent des romans portés par une voix masculine.
Elle utilise des narrateurs de la même manière qu'elle s'appelle George Sand.
De la même manière qu'elle s'appelle effectivement George Sand, et qu'elle aime bien s'habiller en homme.
Donc on ne peut pas dire, d'après vous, qu'il y ait quelque chose de militant dans le rapport de George Sand à ses personnages de fiction de jeunes filles.
Je ne le ressens pas de cette manière-là. Il y a peut-être des auteurs femmes, des romancières, qui ont beaucoup plus retravaillé le personnage de la jeune fille, mais après George Sand.
Par exemple.
Alors je pense éventuellement à Gyp avec
le mariage de chiffon
en particulier, mais beaucoup de personnages féminins chez Gyp.
Pardon de vous interrompre, il faut dire, parce qu'elle a été elle aussi très célèbre, mais il faudrait peut-être préciser qui était Gyp.
Alors Gyp, donc c'est une femme de lettres de la fin du 19e siècle, elle va mourir dans les années 30, qui est très introduite dans les milieux mondains nationalistes de l'époque. Elle est à la fois voisine et très proche de Barrès. Elle fréquente le président Félix Faure. Bon, et elle est par ailleurs connue pour avoir développé une littérature odieusement antisémite.
Et c'est une descendante de Mirabeau.
Elle a d'ailleurs vendu le château de Mirabeau dont elle était propriétaire à Maurice Barrès.
Et elle avait un énorme succès
et elle publiait, alors c'était de la publication alimentaire, hein, elle avait un mari volage et dépensier, et elle faisait vivre toute sa famille par la multiplication de ses publications, souvent du roman dialogué.
Et assez vulgaire.
Assez vulgaire, assez facile, écrit avec une, quand on voit les manuscrits, avec une énorme écriture violette et de manière tout à fait industrielle.
Et donc, pour ces personnages de jeunes filles, vous disiez qu'il y avait déjà un frémissement de liberté chez elles ?
Alors, un frémissement de liberté, peut-être pas au niveau de l'intrigue. Le mariage de chiffon, ça se termine par un mariage, et ça se termine par un mariage qui aujourd'hui peut nous choquer un petit peu, puisque c'est le mariage entre une jeune fille qui a 17-18 ans et un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Mais en même temps, ce personnage de chiffon est un personnage tout à fait libre, qui est de manière tout à fait délurée, de langage parfaitement libre, et qui secoue un certain nombre des règles justement qui sont imposées à la jeune fille. Elle ne porte pas le corset, par exemple. Elle sort avec un chaperon, mais qui ne la chaperonne pas. Et elle est surtout caractérisée par ce qu'on n'attend pas de la jeune fille. Elle est parfaitement impertinente.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui déplorent aujourd'hui la disparition de la jeune fille, les grincheux, les conservateurs, pestent contre mai 68, mais ce qui est très intéressant, c'est que les premières contestations de l'idée de jeune fille viennent d'un moment que ces gens-là aiment plutôt et qui est Vichy. Et je pense à ça en particulier parce qu'il y a eu sous Vichy, au moment de Vichy, une adaptation cinématographique très célèbre du mariage de chiffon, et il y a eu plusieurs films comme ça où on voyait des jeunes filles devenant insolentes. Et je me demande si ça ne venait pas tout simplement du fait que, dans l'inconscient du pays, les hommes avaient failli.
C'est très très probable, mais en même temps
avait failli dans leur
virilité, en perdant la guerre, etc. Mais en même temps, ça se termine toujours l'intrigue sentimentale, et c'est bien le cas dans le film d'Autant Lara de 42 auquel vous faites allusion. Ça se termine toujours par un mariage, et par un mariage où finalement la femme va retrouver la place qui était la sienne antérieurement à la défaite dans la famille. Alors, c'est probablement lié aussi au fait qu'évidemment il y avait des millions de prisonniers. Et ça modifiait la position de la femme dans la société.
Moyennant quoi, Radiguet, à la guerre précédente, avait osé quelque chose qui n'a pas, enfin qui évidemment ne pouvait pas être osé en 40.
Non.
Nous avons parlé dans la première partie une ou deux fois de François Mauriac, en particulier parce qu'à mon avis c'est lui qui a dressé le constat de la fin de la jeune fille dans un entretien célèbre. Et Mauriac a eu des rapports assez taquins avec une femme qui a probablement contribué aussi à changer l'idée de la jeune fille, c'est celle qu'elle appelait un charmant petit monstre, c'était Françoise Sagan.
Voilà, alors je pense que Françoise Sagan, son grand succès, qui est donc Bonjour Tristesse, est très clairement un livre qui revient sur ce personnage de la jeune fille, qui revient de manière extrêmement discrète, mais probablement avec beaucoup, beaucoup d'intertextualité, hein, puisqu'il y a un moment où l'héroïne va monter un stratagème pour séparer son père d'une maîtresse. Or, si on regarde ce qu'il en est exactement de ce stratagème, c'est très précisément celui dont on ne badine pas avec l'amour, qui est monté par Perdican autour de Camille et de Rosette. Les positions varient un petit peu dans le trio ou le quatuor amoureux, mais ça se termine tout aussi mal. De même que Rosette meurt dans On ne badine pas avec l'amour, la maîtresse du père va avoir un accident de voiture qui est très probablement à tenir pour un suicide.
Et donc Sagan a ouvert les portes au bon moment, d'une certaine façon.
Probablement, et toute sa jeune fille retravaille cela. Alors, elle retrouve des traits qu'on avait déjà. Elle est impertinente, de manière tout à fait forte, dans des soirées qui sont des soirées mondaines, etc., etc. En même temps, au début du récit, elle est tout à fait vierge. Mais elle va dire quelque chose qui me paraît très, très intéressant. C'est après qu'elle a perdu sa virginité, elle dit qu'elle reste encore jeune fille. Hein, donc, ça décale le stéréotype par rapport à un certain nombre de règles qui était jusqu'ici communément admise. Et on retrouve aussi chez Sagan cette opposition entre la jeune fille et la garce, puisque les deux femmes qui vont jouer dans le quatuor amoureux, la première maîtresse du père, Elsa, est traitée de garce. La femme que le père veut épouser après s'être débarrassée de cette maîtresse est elle aussi traitée de garce. Et bien évidemment, le stratagème qui est monté pour éliminer l'une ou l'autre fait que cette jeune fille est aussi une garce.
C'est aussi une garce. Est-ce que vous diriez que quelqu'un qui a été important pour la libération de la femme, qui est Simone de Beauvoir, dans ses fictions, s'est emparé d'une façon ou d'une autre du personnage de la jeune fille ? Ou est-ce que ce sont déjà des femmes qui ont des amants ou voire des maîtresses dans l'invité ?
Oui, je pense que c'est plutôt je ne le ressens pas dans de cette manière-là, sauf peut-être dans les mémoires d'une jeune fille rangée,
mais c'est des mémoires,
on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du roman où là on retrouve effectivement cette jeune fille avec un désir d'émancipation.
Mais est-ce que précisément c'est pas intéressant parce que elle fait comme si la jeune fille n'existait pas et n'avait aucune importance. Bon, voir, puisqu'il n'y a pas de personnage de jeune fille, il y a des étudiantes, mais plus du tout ce stéréotype.
C'est effectivement un personnage à travers lequel elle passe, qui n'est pas là.
Mais au fin, est-ce qu'elle ne prend pas acte de son inexistence depuis 150 ans ?
C'est une possibilité.
Denis Pernaud, que vous a appris le personnage ou le type de la jeune fille ?
Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressé en relisant un certain nombre de romans, ceux dont nous avons parlé et quelques autres, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le lien entre la jeune fille et le romanesque. Souvent on dit la jeune fille est romanesque, la sentimentalité de la jeune fille, on est dans toutes sortes de clichés, il y a la jeune fille comme machine à fantasmes. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était justement le fait que c'est un personnage fondamentalement anti-romanesque. C'est un personnage, si on veut le respecter dans les traits que vous avez rappelés tout à l'heure, c'est un personnage qui ne peut pas entrer dans un roman. C'est un personnage qui n'a pas finalement droit à la parole. C'est un personnage qui est privé d'action. Hein. Et donc, c'est un personnage qui est limité à une situation qui est une situation d'attente. Cette jeune fille caricaturale ou stéréotypée, elle est là pour attendre le prince charmant qui prendra les traits d'un mari. On ne peut rien imaginer de moins romanesque, et probablement pour un romancier, rien de plus tentant que d'essayer justement de faire un personnage de jeune fille. Et à chaque fois, évidemment, il va y avoir un décalage, il va y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une espèce de personnage oxymore, la jeune fille. J'aime bien à ce propos une œuvre qui fait un grand scandale en 1894, Les demi Vierge de Marcel Prévost, et puis même si ce n'est pas forcément un très très bon roman, mais l'oxymore me plaît beaucoup, L'ingénue libertine de Colette.
C'était Personnage en personne, le 122e. La semaine prochaine, je parlerai des personnages de prêtres dans la fiction.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Cédric Châtelus. Dans un instant, Mathias Sénard et la salle des machines.
À qui c'était un grand jeudi, tous les jours paradis.